études sur les attributs de Dieu. En fait, quand on analyse bien et qu'on regarde bien souvent les prières des frères et des sœurs, on se rend compte qu'il y a une mauvaise connaissance de Dieu. J'ai l'occasion de parler avec des gens et de parler avec des chrétiens et aussi bien des inconvertis, mais à chaque fois, on entend des réflexions sur Dieu qui sont fausses. Certains chrétiens mettent leur confiance en un Dieu qui n'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible n'est pas un distributeur automatique de bénédictions. La parole de Dieu nous dit que Dieu est un Dieu redoutable. Je lisais tout à l'heure juste cela. Il est redoutable, mais il est amour. Mais il n'est pas le Père Noël. Pour beaucoup de gens, Dieu, c'est le Père Noël ou quelque chose de semblable. Mais Dieu, c'est le Dieu tout-puissant, c'est l'Éternel. Quand nous considérons la Bible, que nous regardons et nous lisons depuis la première page et en suivant jusqu'à l'Apocalypse, on se rend compte d'une vérité essentielle, c'est que l'enseignement et ce que Dieu révèle de lui-même est progressif. Au fur et à mesure que l'on avance, on découvre de nouvelles choses sur Dieu. C'est le Dieu qui s'est révélé à Adam et Ève et révélé d'une manière encore plus grande et plus merveilleuse dans l'Apocalypse quand le Seigneur Jésus se tient et que vous voyez cette révélation de Jésus-Christ qui est au-delà de toute imagination, de toute description. Quand l'apôtre Jean en parle, il a les pieds embrasés comme de l'airain ardent, de sa bouche sort. Il n'y a que des images qui peuvent exprimer ce qu'il est. Il est plus grand et plus parfait et plus merveilleux que tout ce que l'on peut imaginer. C'est vraiment le Dieu éternel, le Dieu tout-puissant, le Dieu au-delà de toute conception et de toute imagination humaine. Si Dieu ne s'était pas révélé dans la Bible, l'homme ne le connaîtrait pas. Ce que nous connaissons de Dieu par naturellement est absolument insuffisant. Il n'y a pas de possibilité d'avoir une relation avec Dieu par une révélation naturelle. C'est la révélation naturelle des philosophes du XVIIIe siècle, la religion naturelle, l'homme, le bon sauvage. Mais tout ça, ça n'existe pas. Tout ça, c'est faux. Tout ça, ce sont des mensonges. L'homme, naturellement, ne connaît pas Dieu. L'homme ne s'est jamais approché de Dieu. Il n'a jamais eu une révélation de Dieu en dehors d'une révélation spéciale et une révélation dans la parole de Dieu. Dieu a choisi un canal spécial. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu en dehors de la Bible, des personnes qui ont connu certaines choses de Dieu. Mais ça, on peut presque dire que depuis le jardin d'Éden, il y a une certaine connaissance de Dieu qui reste attachée à l'homme et que l'homme se transmet comme cela en dehors de la Bible. Mais cette révélation est rudimentaire. Elle est très fragmentaire et souvent ça tient plus à des superstitions qu'à vraiment quelque chose de posé, de structuré et de vraiment sûr. Donc c'est Dieu et ces révélations, de ces fameuses révélations naturelles, nous amènent plutôt à un Dieu qui est inconnaissable, qui est loin. Très loin. Je me rappelle d'avoir lu quelque chose. Les gens adoraient des idoles et ils savaient très bien qu'ils adoraient des idoles. Ils savaient très bien qu'ils adoraient des démons. Ils savaient très bien qu'ils faisaient des sacrifices aux démons. Mais ils disaient, mais le Dieu véritable, nous ne le connaissons pas. Et nous avons bien trop peur de faire quelque chose qui lui déplaise. Alors nous préférons apaiser ces idoles, ces démons et tout cela. Alors nous chercherons à apaiser, à apaiser, à apaiser. Et quand les serviteurs de Dieu sont allés à travers le monde pour annoncer l'évangile, eh bien souvent ils ont rencontré des peuples qui disaient « Ah oui, c'est quelque chose que dans le passé, oui, mais nous vous nous apportez, nous avions peur. En effet, mais C'est les hommes ne savaient pas, ils n'étaient pas sûrs. Ils savaient qu'il y avait quelqu'un au-dessus qui était bien loin, bien, mais ils disaient, nous ne pouvons pas le connaître. Nous l'avons offensé un jour, il s'est éloigné de nous, et maintenant, eh bien, nous ne savons plus comment le retrouver et comment le connaître. À moins de qu'il se révèle et qu'il vienne à nous, mais nous sommes bien trop misérables et bien trop pécheurs pour attendre que ce Dieu qui est si loin que nous avons offensé, eh bien, s'approche de nous. Et c'était le désarroi et la confusion. C'est le plus ancien livre de la Bible, c'est le livre de Job. Et le livre de Job tourne autour de cette question. Qui est Dieu? C'est la clé du livre de Job. Je vous propose, dans une méditation personnelle, d'analyser le livre de Job avec cela. C'est Job est un homme qui aime Dieu, qui a une certaine révélation de Dieu. Ses amis aussi ont une révélation de Dieu. Ils connaissent certaines choses de Dieu, mais il n'y a rien d'écrit. Il n'y a rien qui a été vraiment transmis d'une manière officielle, si je peux dire. Mais avec le peu qu'ils savent, ils élaborent des choses sur Dieu. Alors vous avez les amis de Job qui disent d'énormes bêtises sur Dieu. Parfois ils disent des vérités, d'autres fois ils disent des choses qui sont fausses. Et si vous voulez baser une doctrine sur les paroles de Tsophar et des autres, vous aurez de fausses doctrines. Parce que il y a du vrai et il y a du faux. C'est Job qui s'approche le plus. Mais néanmoins, sa révélation est limitée. Nous allons prendre un verset dans le livre de Job, donc au chapitre 11. Job, chapitre 11, le verset 7. Alors c'est Tsophar qui parle à Job. Il dit, prétendu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant, elle est aussi haute que les cieux, que feras-tu? Plus profonde que le séjour des morts, que sauras-tu? La mesure en est plus longue que la terre, et plus là, elle est plus large que la mer. S'il passe, s'il saisit, s'il traîne à son tribunal, qui s'y opposera? Car il connaît, etc., etc., etc. Il avoue l'ignorance. Et il dit, on ne peut pas. Il dit, Job, tu es un orgueilleux parce que tu prétends connaître Dieu et tu ne peux pas le connaître. Il essaye de prouver et de donner une évidence, mais il est impossible de connaître Dieu. C'est évident. On en connaît quelques bribes et point final. Il n'y a pas de révélation de Dieu. Ça, c'est ce que Tsophar de Théman dit. Mais de Naama. Mais Job, eh bien, en connaissait un peu plus, mais pas suffisamment. Et à la fin du livre, eh bien, quand Dieu lui parle et qu'il se révèle un peu plus à lui et qu'il dit des choses essentielles et qu'il démontre qu'il est le Créateur, qu'il tient toutes choses dans sa main, qu'il est le Dieu tout-puissant, qu'il est l'Éternel, eh bien, à ce moment-là, il dit. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Ce qui veut dire, c'est j'avais une certaine connaissance de toi par ouï-dire. On m'avait tenu au courant, mais maintenant j'en sais davantage parce que je t'ai vu. Il a eu une révélation directe. Alors qu'avant il avait une instruction rudimentaire, maintenant il avait été l'objet d'une révélation directe. Dieu lui avait parlé, Dieu avait dit des choses sur lui. Et à ce moment-là, eh bien, il n'était plus dans le vague parce que il ne disait pas, oui, mais un tel dit ça, un tel autre dit ça. Non, il dit, Dieu a dit et il m'a dit. Et ça fait toute une différence. C'est énorme. Le Dieu de la Bible s'est révélé. Quand nous lisons la Bible, nous sommes au courant de qui est Dieu. Dieu est plus grand et plus merveilleux que tout ce que l'homme peut imaginer ou penser. C'est le problème de ces gens qui prétendent connaître Dieu en dehors de la Bible. Et j'ai eu l'occasion de parler à plusieurs reprises avec des personnes qui, de toutes sortes de religions et certaines religions chrétiennes, et qui ont une connaissance extra-biblique de Dieu. Et alors, on vous tient un discours sur une chose et un discours sur une autre. Mais vous dites, mais attendez, où vous l'avez trouvé? Ah, mais ça, c'est un père de l'Église qui l'a dit. Ça, c'est dans un concile. Ça, c'est dans un... Mais ce n'est pas dans la Bible. La Bible dit autre chose. Et notre réflexe en tant que chrétien, c'est de toujours revenir à la Bible. Les chrétiens, dans le temps passé, je me rappelle de quelqu'un qui me l'avait dit, quand il y avait un débat sur une question assez épineuse, où on n'avait pas vraiment la réponse, il y avait toujours un frère qui disait, attendez, maintenant il serait bon peut-être de revenir à la Bible, qu'est-ce que la Bible dit sur ce sujet? Et on va sonder la Bible maintenant. On ne va plus se fier à notre sagesse humaine et apporter des arguments et des pour et des contre sur cette question-là. Qu'est-ce que la Bible dit en réalité? Et on revient à l'essentiel. On revient à la révélation, à ce que Dieu a dit, parce que Dieu a vraiment dit ce qu'il a dit. Ça, c'est très important. Et quand on parle de Dieu, eh bien, on doit revenir à la révélation, à ce que Dieu a dit dans sa parole. C'est important parce que notre vie chrétienne dépend de notre connaissance de Dieu. Si votre connaissance de Dieu est erronée, si elle est faible, vous n'allez pas prier comme quelqu'un de solide et d'affermi. Parce que votre Dieu, il est vague, il est flou, il n'est pas certain. Dès que votre Dieu devient le Tout-Puissant, que vous savez que Dieu est le Tout-Puissant, mais d'une manière comme Job, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu, eh bien vous savez que Dieu est le Tout-Puissant, d'une manière tellement certaine que votre foi est solidement établie, et vous pouvez obtenir des exaucements à vos prières parce que vous connaissez Dieu. Beaucoup de personnes lisent la Bible et disent, en effet, Dieu est le Tout-Puissant. Ils l'ont lu. Ils savent d'une certaine manière. Mais au fur et à mesure que l'on grandit dans la vie chrétienne, on apprend à connaître que vraiment Dieu est le Tout-Puissant. C'est important de le savoir et de le poser fermement. Il y a un moment dans la vie chrétienne où on découvre certaines vérités sur Dieu. Il y a même un mot grec que je me passerai de vous citer, mais c'est une. Ce que je lui donne comme définition, c'est une connaissance révélée. Vous avez la connaissance, on sait, mais il y a une connaissance supérieure, une connaissance que, au fond de soi-même, on sait. Par exemple, vous savez que Jésus-Christ est Dieu. Vous avez lu votre Bible, vous avez tous les versets qui prouvent la divinité de Jésus-Christ, et il y en a beaucoup. Quoi qu'en disent les témoins de Jéhovah, il y a non seulement un enseignement clair sur que Jésus-Christ est Dieu, mais il y a ses actions, ses œuvres qui ont prouvé qu'il était vraiment Dieu, qu'il était le Dieu qui est incarné, qui était venu au milieu des hommes pour donner sa vie et pour nous sauver de nos péchés. Donc il y a une révélation de Jésus-Christ. Mais si vous savez intérieurement que Jésus-Christ est Dieu, alors vous aurez tout à fait un autre regard sur le monde. Vous aurez un autre regard sur les autres. Vous aurez un autre regard sur vous-même. Vous aurez un autre regard sur les perspectives de votre vie. Vous aurez un autre regard sur votre avenir. Vous ne verrez plus les choses de la même manière, parce que Jésus-Christ est vraiment Dieu. Ça, c'est très important. Nous avons besoin de croître dans la connaissance de Dieu. Le problème, c'est le manque de connaissance de Dieu. C'est Osée chapitre 3, versets 1 à 3. Non, Osée chapitre 6, versets 1 à 3. Il dit: Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Je vous le passe pour des versets de réveil. Vous pouvez prier dans ce sens. Il y a une connaissance de Dieu. Cherchons Dieu. Cherchons à connaître Dieu. La plupart des gens, ce qu'ils savent de Dieu, eh bien, c'est tout simplement ce que, on pourrait presque dire, le hasard leur a révélé. Ils ont été à proximité de certains chrétiens, alors ils connaissent certaines choses de Dieu. Ils ont été dans certaines réunions, donc ils en savent un peu plus. Ils ont lu superficiellement leur Bible, ils savent encore un peu plus sur Dieu. Mais ils n'ont jamais sondé. Ils n'ont jamais cherché à approfondir. Il n'y a pas cette soif de connaître Dieu, de cette soif d'avoir la vraie connaissance de Dieu. Pas une connaissance intellectuelle de Dieu, mais une connaissance du cœur. Souvent, nous parlons de la conversion, et c'est une chose absolument vraie. C'est une petite phrase humoristique. On demande à quelqu'un: Savez-vous quelle est la distance qu'il y a entre le ciel et l'enfer? Ça vous semble bizarre, la question. Eh bien, 45 centimètres, tout simplement. C'est entre ce que vous savez intellectuellement et ce que vous avez reçu dans votre cœur. Vous pouvez connaître l'Évangile dans votre tête et vous pouvez être sauvé dans votre cœur et être né de nouveau. Il y a des gens qui sont perdus et qui connaissent entièrement l'Évangile, intellectuellement. C'est d'autres qui le connaissent et ils le vivent. C'est une vie qui est en eux. Des sources d'eau vive jailliront de lui. Ça, c'est quelque chose de merveilleux parce qu'il y a la vie qui coule. Nous avons une nouvelle vie. C'est toute la différence. Il y a des gens qui connaissent la Bible et qui sont perdus. Et qui la connaissent même mieux que des chrétiens. Et ils sont perdus quand même. Et il y a des chrétiens qui connaissent superficiellement la parole de Dieu, qui ne sondent jamais, qui n'approfondissent jamais. Ils se contentent d'une lecture superficielle. Ils restent dans le vague. Ils restent à la surface. C'est quand vous êtes dans certaines parties du globe, dans certains océans, et en particulier une région des Philippines, je crois que c'est la région la plus profonde de notre globe, on appelle la fosse des Philippines. Si ma mémoire est bonne, mon école primaire est bien loin, eh bien je crois qu'il y a 14 km de profondeur de mer. Et vous pouvez connaître cet endroit, sa surface. Et vous dites, mais sa surface ressemble à la surface de ce qui est à côté. Et 8 000 km plus loin, vous avez la même surface, ça ressemble exactement. Mais si vous entrez en profondeur, vous voyez la différence. Et la parole de Dieu est de la même manière. Ce qui est vrai pour des géographies, eh bien, est vrai aussi pour la parole de Dieu. Il y a des passages bibliques. C'est la fosse des Philippines. D'autres, eh bien, c'est le bord de la Méditerranée. Vous avez certaines choses très importantes qui sont dites, mais bon, un enfant peut les connaître et les apprécier. Mais d'autres choses, eh bien, sont pour une maturité qui va en profondeur, qui va très loin. Il faut aller chercher loin. C'est la parole de Dieu à des profondeurs immenses. Parviendras-tu à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Bien évidemment, non. Mais néanmoins, entre une connaissance superficielle et une connaissance approfondie, il y a une très grande différence. Et ce n'est pas parce que nous n'arriverons pas à la connaissance parfaite du Tout-Puissant que nous ne devons pas chercher à connaître Dieu. C'est une évidence. Si nous restons toujours en surface dans la parole de Dieu, eh bien, nous n'irons pas très loin. Et nous ne serons pas un grand avantage pour les autres. Mais si nous cherchons à approfondir, à aller plus loin, nous cherchons à connaître Dieu. Mais qui est Dieu? C'est le vrai Dieu, d'accord. Nous l'avons, d'accord. Nous sommes nés de nouveau, d'accord. Mais Dieu, c'est le grand Dieu. C'est le Tout-Puissant. Savez-vous ce que veut dire Dieu est le Tout-Puissant? Savez-vous ce que veut dire Dieu est saint? Dieu est juste. Dieu est amour. Ce sont des attributs de Dieu. Alors on parle essence, nature, attributs de Dieu. Hein? Il y a des nuances dans tout ça, mais je vous passe seulement attributs de Dieu pour que les choses soient plus simples. Mais quand il est dit Dieu est amour, c'est quelque chose d'immense, immense. Aucune religion au monde ne parle de l'amour de Dieu. La justice de Dieu, oui. L'amour de Dieu, non. C'est une révélation qui ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Et c'est une révélation qui se découvre non seulement en Jésus-Christ, mais en la mort de Jésus-Christ sur la croix. C'est là, sur la croix, que nous avons la révélation parfaite de l'amour de Dieu pour nous. Je vous l'ai raconté, je raconte encore. Mais j'avais appris Galates 2:20 par cœur, pour l'avoir toujours avec moi. Et un jour, j'ai lu simplement un morceau de ce verset. Il est dit, le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et je peux vous dire, quand j'ai lu ça, je suis tombé à genoux, j'ai pleuré. Et même en le racontant, je suis encore ému aujourd'hui, après presque 40 ans. Le Fils de Dieu qui m'a aimé. Cet amour immense, cet amour sublime, cet amour qui dépasse toute connaissance humaine, que si nous voulons sonder par notre intelligence, nous n'irons pas très loin. Chercherons sur des virgules ou des points-virgules, ou sur un mot ou sur un autre. Mais nous avons cette révélation parfaite de le Fils de Dieu qui m'a aimé, c'est quelque chose de si grand, ça vous change, ça vous transforme, vous n'êtes plus le même. Il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie. Il y a une lumière qui a éclairé votre cœur. Il y a une différence, quelque chose d'autre. On est un autre homme, une autre femme, un autre être humain. Ça vous change complètement. Les religions de ce monde ne peuvent pas arriver à la connaissance de l'amour de Dieu. Ils présupposent, ils soupçonnent la justice de Dieu. Parce que comme ils sont pécheurs, ils imaginent que le Dieu, eh bien, un jour, il doit faire tomber toute sa justice sur l'être humain parce que l'homme est pécheur. Mais sauvé par grâce, sauvé par miséricorde, sauvé par un amour sublime, par un amour qui dépasse toute connaissance humaine, un amour qui donne, qui s'est donné totalement, parfaitement, complètement, au-delà de toute imagination humaine. Je peux vous dire, cet amour-là, il est au-dessus de tout. Je ne parle que de l'amour, bien sûr. Ce n'est pas que l'amour. C'est quand même une révélation, grande révélation du caractère et de l'essence de Dieu, son amour. Mais quand nous connaissons cela, eh bien, il y a quelque chose qui change dans notre vie. C'est la connaissance de Dieu, la connaissance du Dieu vivant. Et Osée dit, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Cherchons à connaître. Je peux vous dire, si vous vous fiez au hasard, si vous attendez qu'un de ces jours, il vous arrive un ange qui vous dise, voilà, eh bien, très bien. Tout ce que tu n'as pas su jusqu'à maintenant, que tu n'as pas eu le courage et l'énergie d'apprendre, eh bien, je vais te le dire. Si vous attendez 7 ans, il n'arrivera pas. Là, Dieu nous a parlé par sa parole, il nous a révélé. Et nous avons à sonder la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus parlait des pharisiens, dit, vous sondez les Écritures. Mais nous devons nous le répéter, il faut sonder les Écritures. Et nous sondons les Écritures, nous cherchons à savoir, nous cherchons à savoir davantage qui est Dieu. C'est quelque chose de très important. Je voudrais aller un peu plus loin et vous parler de l'éternité de Dieu. On dit Dieu, c'est l'éternel. Et vous avez, je crois qu'en français, on a un grand privilège, c'est que le mot est traduit l'éternel. C'est dans les autres langues, ça ne se trouve pas comme cela. Nous, nous avons l'éternel. C'est il y a en hébreu quatre lettres mystérieuses qui ont fait couler beaucoup d'encre, qui en feront couler encore beaucoup. Il y a énormément de bêtises qui ont été dites sur ces quatre lettres. C'est les quatre lettres du nom de Dieu. C'est un vieux mot hébreu. C'est un hébreu sans doute plus archaïque que celui que même de la Bible, qui dit je suis. C'est le présent du verbe être. Je suis. Et ces quatre lettres, c'est imprononçable. Nous ne savons pas quelles sont les voyelles qui vont dessus. Il y a certains qui disent Jéhovah, c'est sûr, c'est Jéhovah. D'autres disent c'est Yahvé, c'est sûr, c'est Yahvé. Je vais vous dire, c'est aucun des deux. C'est impossible. Parce que si ça avait été un des deux, les Juifs se seraient bien arrangés pour que ce soit d'autres voyelles qui soient avec ce mot, parce qu'ils ne voulaient pas le prononcer. Donc, quand vous avez Jéhovah, ce sont les voyelles d'Eloah. Elohim, ouais, et puis quand vous avez les Yahvé, eh bien c'est les voyelles d'Adonai. Et donc c'est impossible que ce soit ces voyelles-là, on ne sait pas le prononcer, point final. Mais quand Moïse a demandé à Dieu qui s'est révélé à lui, il a dit, mais qui es-tu? Le peuple va me demander, mais qui a parlé? Qui t'envoie? C'est parce qu'eux, ils étaient en Égypte. Il y avait le Dieu un tel, il y avait le Dieu un tel, et puis un autre, et puis un autre, et puis un autre. Alors, dans tout ce panthéon, lequel qui t'envoie? Eh bien, c'est le vrai Dieu. C'est celui qui dit, je suis. Qui est? Il a dit, je suis celui qui suit. C'est dans Exode, chapitre 3. Je l'ai pas noté. Et Exode chapitre 3, versets 13 et 14. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que lui répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. C'est quelque chose de merveilleux. C'est dans le nom même, Dieu révèle quelque chose de ce qu'il est. Et il est Je suis. C'est son éternité, mais c'est aussi son existence par lui-même. Il dit Je suis celui qui suit. S'il n'y a ni commencement ni fin, il y a une existence par elle-même. Il est. C'est tout. Et si nous avons l'intention de dire beaucoup de choses sur de tels mots, eh bien, souvent, nous allons dire des bêtises. Parce que nous sommes, nous, liés avec le temps et avec l'espace. Nous sommes des humains. Nous avons une humanité. Vous dites, je mets tant de minutes pour aller de tel endroit à tel endroit. C'est le temps et l'espace. Même quand nous exprimons certaines idées, eh bien, nous les exprimons toujours, même des idées abstraites, nous les exprimons avec des notions de temps et d'espace. Vous avez des chiffres que nous n'avons pas de mots pour les prononcer. Par exemple, nous avons en mathématiques trouvé quelque chose d'absolument génial. Vous avez la puissance. Vous dites 10 puissance 10. Alors, vous avez. Mais ça veut dire 10 avec 10 zéros. Mais si vous essayez d'écrire ce chiffre et de trouver comment le nom vous est prononcé, vous aurez du mal. Parce que 10 zéros, ça va très loin. Et même pour fixer des distances, on a parlé en années-lumière. Alors, la distance visible pour l'homme avec les plus grands télescopes, si je me rappelle bien, c'est 12 années-lumière. C'est-à-dire la vitesse de la lumière multipliée par des années. Ce que la lumière parcourt en une année. Et donc la vitesse de la lumière, hein, vous savez, et puis vous multipliez par une année et par les kilomètres secondes et le nombre de secondes dans une année, je vous passe ça, c'est un bon exercice. Et vous aurez ce que la lumière parcourt en une année. Et là, ce n'est même plus une année, c'est des milliards d'années-lumière. Mais c'est une distance. C'est une distance. Elle vous paraît immense, milliards. J'avais fait des calculs là-dessus, mais je suis pas né il y a 1 milliard de secondes. C'est il y a bien moins de temps que je suis né. Pourtant, quand même, j'ai un certain âge. Et de la naissance de Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas 1 milliard de minutes. Et de la création jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas 1 milliard d'heures. Alors, pour vous dire, milliard, un être humain n'est pas capable de compter 1 milliard dans sa vie. Alors, je me rappelle Oncle Picsou qui était sur son tas d'or en train de compter des milliards. C'est pas vrai, hein? Picsou, c'est pas vrai. Et alors, mais nous avons des notions de temps et d'espace. Alors, nous mesurons l'espace avec du temps et la vitesse par rapport à du temps. Et c'est même si les chiffres sont immenses, néanmoins, il y a une limite. Nous ne sommes pas dans l'éternité quand nous parlons de 12 milliards d'années-lumière. Nous parlons de quelque chose qui fait partie de la matière et qui est dans des concepts humains. Mais dès que nous parlons d'éternité, nous parlons de quelque chose que l'homme ne peut pas comprendre. Qu'est-ce que c'est que l'éternité? La meilleure réponse, c'est un présent. Mais si vous allez au-delà de ce présent, vous ne savez pas. Dieu est éternel. Il est dans le présent toujours. Il n'y a pas de temps pour Dieu. Mais nous sommes humains. Nous sommes liés au temps. Nous pouvons dire, j'ai tel âge. Il y a tant de jours qui se sont passés depuis ma naissance. Il y a un soir et un matin. Et nous pouvons, c'est le temps. Nous sommes liés avec le temps. Et Dieu n'est pas lié avec le temps. Il n'a pas de rapport avec le temps. Il est l'éternel. L'éternel. C'est le nom de Dieu. C'est son nom. Je suis. Et donc, c'est exprimé par le présent. Il est l'éternel. Impossible de mettre Dieu dans le temps. Mais il est impossible de mettre Dieu dans l'espace aussi. Et c'est l'infini de Dieu. Dieu est infini parce que nous sommes liés à l'espace et au temps, mais Dieu n'est pas lié ni à l'espace ni au temps. Il est éternel, il est infini. Nous ne pouvons pas mesurer Dieu. Quand on parle de l'amour de Dieu, nous disons il est infini. Qu'est-ce que cela veut dire, infini? Ma meilleure réponse que je puisse donner, c'est une idée que j'ai personnelle, c'est que Dieu totalise en lui-même tout l'amour. Et qu'hors de lui, il n'y a pas d'amour. Et s'il y a un amour quelconque dans l'homme, c'est ce que l'homme garde comme ce que Dieu lui a donné quand il l'a créé. Et c'est en fait des bribes de ce qui lui reste après la chute. Et on parle de l'amour maternel. Et il y a l'amour pour son prochain. Et il y a des êtres humains, hein, en dehors de toute conception chrétienne, qui font des œuvres humanitaires, qui ont donné leur vie pour leurs semblables. Et je ne le condamne pas, je trouve très bien. C'est très bon. Ils ont fait vraiment. Mais c'est ce qui leur reste, c'est les bribes de cet amour inné que Dieu avait donné à l'homme quand il a été créé. Et je peux vous dire que vu les ruines que l'homme représente après la chute, eh bien cet amour devait être quelque chose d'immense dans le cœur de l'homme. Mais Dieu totalise tout l'amour. Il y a en lui tout l'amour. Il y a toute la justice. Et quand l'homme a une certaine justice, c'est quelque chose qui lui est venu de Dieu et que Dieu lui avait donné quand il l'a créé. C'est donc l'infini de Dieu. Dieu va beaucoup plus loin et nous, de nos conceptions humaines dans ces choses-là. Il y a l'infini. C'est quand le Seigneur Jésus, on lui a, les pharisiens ont essayé de le coincer sur ce qu'il était. Dans Jean chapitre 8, le verset 58. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Et il a prononcé le nom de Dieu à ce moment-là. Et je pense que le Seigneur Jésus leur a dit en hébreu. Et à ce moment-là, le Seigneur Jésus a prononcé le mot que les Juifs ne prononçaient pas. Et il leur a dit, je suis. Et alors ils ont entendu pour la première fois la sonorité du vrai nom de Dieu. Et il s'est identifié à Dieu qui s'est révélé à Moïse et qui a donné la loi et qui a délivré le peuple d'Israël. Et c'est quelque chose d'absolument merveilleux et extraordinaire. Le Seigneur Jésus leur a, ce n'est pas dit dans le texte, hein, mais je pense que le Seigneur Jésus l'a dit en hébreu. Et c'est la grande raison pour laquelle ils ont été si scandalisés. Parce que non seulement il a prononcé le nom de Dieu, et ensuite, il s'est totalement identifié. Il a dit, je suis le Dieu. Je suis l'Éternel. Mais je voudrais faire un rapprochement aussi avec quelque chose, et peu de gens en parlent, mais le Seigneur Jésus, à chaque fois, et c'est dans l'évangile de Jean surtout qu'on trouve, il dit, je suis la porte. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et à chaque fois, c'est le je suis. Je suis, je suis. Et en fait, c'est quelque chose comme l'Éternel. L'Éternel, l'Éternel, c'est le nom imprononçable de Dieu qu'il a mis en rapport avec sa nature. Et c'est je suis la porte, je suis la résurrection à la vie, je suis le lot de la vie, je suis la lumière du monde, etc. Tout cela représente des attributs par rapport à Jésus-Christ. Et si on voulait les rapprocher des autres attributs que nous trouvons dans la Bible, eh bien nous trouverons la divinité de Jésus-Christ clairement décrite dans l'évangile de Jean. Parce que l'évangile de Jean a été écrit pour prouver la divinité de Jésus-Christ. Il y avait une secte qui s'était levée à cette époque et Jean a écrit pour démontrer que Jésus-Christ est Dieu. Et il l'a démontré non seulement par les miracles, par les discours, mais aussi parce qu'il s'est attribué le nom éternel de Dieu. Et il a dit qu'il est, il est l'Éternel. Et c'est ce nom de Dieu. Il a dit, le nom de Dieu, c'est le mien. Je suis. Et ça, c'est aussi très important. Nous avons besoin d'apprendre que Dieu, que notre Seigneur Jésus-Christ est le je suis. Qu'il est le Dieu tout-puissant, mais qu'il est l'Éternel. Celui qui a le vrai nom. Il est totalement identifié avec le Dieu de l'Ancien Testament. Il n'y a pas de différence. Il y a cette connaissance de Dieu, et je voudrais terminer là-dessus. Quand Paul parlait aux Corinthiens, il disait, vous ne connaissez pas Dieu. Certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu. Et je le dis à votre honte. Mais je vous ai donné quelques directions et je vous ai parlé de certaines choses sur la divinité et sur les attributs de Dieu. Et pour vous encourager, pour vous dire, voilà, vous pouvez savoir beaucoup plus. Bon, je pense peut-être un de ces jours aller un peu plus loin. Mais ici, eh bien, nous avons besoin de comprendre que si nous ne cherchons pas Dieu, si nous ne cherchons pas à le connaître, nous pouvons mettre un doigt sur nous et dire, je ne connais pas Dieu. Et je le dis à ma honte. Il y a tant d'années que je connais, il y a tant d'années que je suis sauvé, et finalement, quand j'y réfléchis, je ne sais même pas qui est Dieu. Oh, bien sûr, j'ai une vague idée de Dieu. Mais dans sa réalité, que Dieu est le Tout-Puissant, qu'il est l'Éternel, qu'il est le Dieu infini, qu'il est le seul sage, qu'il est juste, qu'il est amour, qu'il est redoutable, qu'il est un feu dévorant, qu'il est, qu'il est, qu'il est, qu'il est. Vous en avez, vous en avez. Et ça, c'est quelque chose. Et on peut se poser la question, et on peut dire et prier et dire, Seigneur, ouvre-moi les yeux pour que je contemple qui tu es. Que mon cœur ait soif de toi, une soif réelle, que je sache te chercher jusqu'à ce que je te trouve. Ne vous contentez pas, vous êtes né de nouveau, vous êtes réconcilié avec Dieu, c'est très bien, c'est le commencement. Il y a un chemin à faire, il y a une progression. On cherche à connaître Dieu, on cherche à connaître davantage, on cherche à approfondir, on cherche à aller plus loin. Et si vous vous arrêtez et vous restez stationnaire, eh bien, vous n'aurez jamais de progrès. Et vous ne pourrez jamais aller plus loin, vous ne pourrez pas aider, vous ne pourrez pas être en aide à l'Église, vous ne pourrez pas être à la gloire de Dieu jour après jour. C'est important de chercher à connaître Dieu. Nous allons prier. Oui, Père, en effet, nous voulons te louer et te rendre grâce parce que nous pouvons nous confier en toi, regarder vers toi. Nous voulons nous attacher à toi, nous voulons croire en toi, nous voulons te chercher et te connaître. Nous voulons vivre, Seigneur, de cette connaissance de ce que tu es. Nous voulons prier et nous reposer sur toi en sachant qui tu es, en ayant des fermes certitudes sur toi-même. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que tu t'es révélé, parce que tu nous as montré qui tu es, parce que nous ne sommes pas de ces personnes qui sont sans la connaissance de ton nom, de ta personne, parce que nous avons ta parole entre les mains. Ô Seigneur, que nous soyons actifs, que nous soyons vigilants, que nous sachions racheter le temps pour chercher à connaître et avancer, à faire des progrès, pour que tu puisses nous utiliser partout où tu nous placeras. Gloire et louange à toi, notre Dieu, de nous exaucer, de répondre à nos prières. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.